Bonjour Chiara, merci beaucoup d'être là.
Bonjour Marianne.
Le couple me semble, et c'est une impression, vous me corrigez si je me trompe, un petit peu mélangé. D'un côté, il y a une abondance des sites de rencontres qui me dit qu'on a envie de rencontrer, qu'on a envie d'être amoureux, mais en même temps, il y a beaucoup de divorces au Québec, à peu près un couple sur deux se sépare. C'est un peu à ne rien y comprendre.
Oui, il faut commencer par dire que le couple, comme nous les connaissons aujourd'hui, est une institution très jeune. En fait, c'est une trouvaille sociale très jeune. Et c'est grosso modo à partir du début du 19e siècle qu'on a commencé à concevoir le couple comme on le conçoit aujourd'hui, donc à rechercher le même type de gratification, le même type de bonheur. Et surtout à rechercher un type d'union et d'intimité qui harmonise à la fois l'amour, donc les sentiments, la sexualité et l'entente sexuelle, donc la gratification aussi du point de vue de l'intimité sexuelle, et la domesticité, donc l'union de deux projets de vie et la cohabitation. Et évidemment, cette forme de relations intimes est très délicate et très difficile, justement parce que on a commencé dès le début de son introduction, disons, de son succès, à y rentrer avec des attentes qui n'étaient pas celles qu'on portait dans le mariage traditionnel, le mariage dans lequel, en fait, on ne s'attendait pas d'être l'amante ou l'amant et la personne préférée du partenaire, du conjoint. Ce qui rend évidemment l'intimité comme nous la connaissons aujourd'hui très fragile, parce que les attentes par rapport au bonheur et par rapport aussi à l'épanouissement individuel à l'intérieur du couple sont extrêmement élevées. Et c'est, si vous voulez, les mêmes attentes de bonheur qui font toute la beauté et toute la, et même si vous voulez aussi les mêmes occasions et possibilités de réaliser un bonheur commun qui font la beauté du couple moderne, qui en font aussi la fragilité, qui font la délicatesse.
Oui. Et c'est peut-être dans cette recherche de bonheur-là qu'on a tenté, notamment dans les dernières années, de repenser le couple. Et ça nous amène à ce sujet qui m'intéresse aujourd'hui, les nouvelles configurations amoureuses. Oui. Il y en a 6 à peu près, c'est ça, Chiara?
Oh non, il y en a, je pense, une panoplie.
Ah, il y en a plusieurs.
Je pense qu'il y en a un éventail énorme.
Autant qu'il y a de couples, finalement,
ouais,
et d'individus.
Mais aussi autant qu'il y a d'expérimentations dans le domaine de l'intimité, arrangements différents entre les personnes.
Mais dans ce texte, nouvelles configurations amoureuses, il y en avait à peu près 6 qui étaient répertoriées. Polyamour, je pense, il y en avait d'autres. Est-ce qu'on peut en nommer quelques-unes de ces nouvelles configurations-là?
Bien sûr, bien sûr. Pour commencer, je dirais que nous définissons, moi et mes collègues, de nouvelles configurations amoureuses, les relations, le type de relations qui prennent sous quelques aspects, que ce soit les distances de ces modèles dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le modèle du couple monogame exclusif, exclusif du point de vue de la sexualité, du point de vue du sentiment et du point de vue de la domesticité, donc de la cohabitation. Tout ce qui prend les distances de ce modèle-là compte parmi des configurations nouvelles, non pas parce qu'aujourd'hui on invente des choses qui n'existaient pas, parce que vous voyez très bien que le fait d'avoir plusieurs partenaires a toujours existé, mais aujourd'hui ces configurations s'imposent comme des véritables tentatives de créer des formes différentes, de diversifier les possibilités de chercher un bonheur partagé, que ce soit pour un bout de chemin ou que ce soit pour la vie. Donc, de ce point de vue-là, vous nommiez justement le polyamour. Le polyamour qui est une catégorie en fait très vaste, est une définition qui regroupe tout ce qui sort de la monogamie, est sûrement une nouvelle configuration qui s'impose de plus en plus. Il y a aussi des formes de relations qui sont moins engagées, surtout qui ne comportent pas ni l'engagement à long terme sur du point de vue social, si vous voulez, ni la cohabitation. Et il y a aussi des couples, par exemple, de couples surtout quand il s'agit de deuxième mariage, deuxième couple engagé, si vous voulez, deuxième couple ayant une certaine importance dans le parcours personnel, qui décident de ne pas habiter ensemble, donc de partager certains moments de leur vie, mais pas la totalité de leur vie, et donc de ne pas avoir ce foyer commun qui est, qu'on reconnaît comme étant partie d'un mariage traditionnel.
J'ai l'impression que c'est l'émancipation de la femme qui a été l'un des facteurs principaux de ces changements-là.
Oui, je dirais l'émancipation, oui, et toutes les conséquences du point de vue social, social-démographique et juridique que l'émancipation, les luttes pour l'émancipation ont eues. Parce que, évidemment, les parcours d'émancipation de femmes ont aussi eu comme conséquence l'entrée massive des femmes dans les marchés du travail et aussi la revendication des femmes à une existence, une vie plus complexe qui ne s'épuise pas justement dans celle qu'on considérait jusqu'à il y a, je dirais, 70 ans, peut-être même 60, la mission naturelle de la femme, c'est-à-dire d'être épouse et mère. Mais justement une existence plus complexe et qui comporte aussi des relations sociales diversifiées en dehors du mariage, une carrière professionnelle peut-être ou une indépendance financière et même une définition propre du bonheur, le droit à définir qu'est-ce qu'est pour moi le bonheur en tant que femme. Ça, c'est évidemment, ce sont des conquêtes assez récentes.
Et le plaisir sexuel aussi qui devient important pour la femme.
Ouais. Justement, ce que vous mentionnez, j'étais pour y arriver, en fait, parce que aussi le droit, la revendication du droit au plaisir, la participation ou au plaisir, à partager aussi la décision et la gestion de l'entente sexuelle. Et ça aussi, c'est un droit qui a été, qu'on a commencé à revendiquer, les femmes ont commencé à revendiquer, je dirais, massivement au 19e siècle. Donc, ce n'est pas vraiment seulement au 20e siècle, mais ça a pris énormément de temps pour que la morale et surtout les doubles standards soient, non pas modifiés complètement parce qu'ils ne le sont pas aujourd'hui mais atteints, affectés, transformés en partie. Et évidemment, ceci a des conséquences majeures sur l'intimité parce que il est plus difficile, beaucoup plus difficile de faire accepter à une femme non seulement une union, une relation dans laquelle la sexualité n'est pas satisfaisante, mais la justification qu'on utilisait avant, c'est-à-dire en tant qu'homme, en tant qu'époux, je me cherche d'autres relations parce que la relation n'est pas satisfaisante. Mais pourquoi il ne devrait pas y avoir de réciprocité dans tout ça?
Voilà.
Et
oui,
voilà,
oui.
Voilà la réponse négative à la monogamie, à l'impératif, au stéréotype de la monogamie, disons.
Karen, le couple semble être sans cesse en mouvance, mais depuis quelques années, hein, les nouvelles technologies de communication aussi, les sites de rencontres, oui, mais bon, plein d'autres formes pour communiquer, ça aussi, ça change les données.
Oui, ça change. Il y a en fait deux aspects qui sont les aspects que vous mettez en évidence. Le premier, c'est celui de la colonisation de l'espace intime et de l'espace existentiel en général par les nouvelles technologies, par les objets connectés. Ceci a évidemment des conséquences majeures sur le couple, sur sa communication. Il y a des... je ne voudrais pas dire des avantages, mais il y a des modifications qui vont dans le sens d'une augmentation des possibilités d'expression et donc de communication et même d'organisation de l'intimité. Mais il y a aussi des aspects qui sont plutôt fragilisants. Par rapport à l'intimité, justement, quand l'attention est détournée, par exemple, l'attention qu'on se porte l'un l'autre, ou quand carrément les technologies et les objets connectés sont utilisés pour chercher d'autres types d'interactions avec d'autres partenaires potentiels.
Voilà. Exactement. Je vous cite, Karen. Un des aspects fondamentaux de l'amour romantique, c'est d'être entièrement présent pour l'autre. Or, avec un objet connecté, comme un téléphone intelligent posé sur la table, l'autre est toujours un peu ailleurs. C'est tiré de ce texte-là qui m'a inspiré le sujet de Marie-Claude Bourdon. On le mettra en lien sur notre site Nouvelle Configuration Amoureuse. Et c'est vrai ça, on a toujours un petit peu les tentacules ailleurs.
Ouais.
Et bien sûr, ça change un petit peu peut-être l'intérêt qu'on pourrait porter à l'autre.
En
fait, du moins, ça multiplie les possibilités.
Disons que peut-être ça ne change pas l'intérêt, mais ça change la manière de l'exprimer et aussi ça nous oblige à changer notre manière de percevoir l'expression de cet intérêt, ce qui veut dire que ça nous demande de la réflexivité, de la patience et peut-être aussi des stratagèmes, des stratégies pour contourner cette présence qui est désormais universelle et totalisante des technologies de communication. Donc, j'imagine que chaque couple trouve la manière de s'arranger avec ça, mais cette problématique-là commence à devenir de plus en plus présente dans la réflexion qu'on fait sur sa propre intimité ou sur l'intimité en général. Le deuxième aspect que vous mentionnez, c'est celui de la prolifération des sites de rencontres et des applications de rencontres, parce que ça, disons, il ne s'agit pas nécessairement d'un phénomène nouveau parce que des services de médiation et de facilitation de rencontres romantiques ont toujours existé. Il y avait les petites annonces avant, il y avait des entremetteurs, il y avait des agences qui s'occupaient de créer des matchs possibles entre des profils des personnes, des clients. Ce qui est particulier du marché des sites de rencontres et des applications de rencontres, je dirais, c'est la grandeur du bassin, c'est les dimensions du bassin de partenaires potentiels.
On n'est plus à rencontrer la fille qui habite dans notre rang, là, au bout
Exactement.
Du rang.
Exactement. Il y a en fait deux types. Il y a des applications de rencontres géolocalisées qui, en fait, essayent de vous mettre en contact
Tinder,
avec des personnes.
Par exemple.
Exactement. Tinder, Grindr pour la communauté gay, qui essayent justement de créer des contacts avec des personnes qui peuvent être plus proches de vous. Mais il y a aussi justement des bassins beaucoup plus grands qui sont ceux de certains sites de rencontres dans lesquels on peut puiser. Évidemment, les critères géographiques restera probablement toujours un critère important de sélection. Mais là, au moins, si vous voulez, du moins l'illusion, l'impression d'avoir devant soi une offre gigantesque de personnes disponibles à entamer des relations amoureuses de différents types est évidemment présente. Et ce qui est particulier aussi, c'est que les types de services, donc le marché des sites de rencontres, se diversifie beaucoup en fonction de la demande. Donc, il y a évidemment des services pensés pour des minorités culturelles, pour des minorités sexuelles.
Des gens aisés, des gens moins.
Exactement.
Oui, des gens mariés maintenant.
Précisément, il y a aussi ça, des gens mariés, des gens qui recherchent des relations clandestines. Il y a en plus toutes sortes de différenciation des relations recherchées. Donc, ce n'est plus seulement pour des relations à long terme engagées et potentiellement pour la vie, si vous voulez, mais ça peut être aussi pour des relations désengagées, désinvoltes, seulement pour des rencontres sexuelles ou tout simplement pour des activités à partager.
Oui. Chiara, le temps file à vue d'œil. Est-ce que être célibataire en 2015, c'est encore mal vu, c'est plus accepté? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de pression sur les gens qui vivent le célibat?
Je dirais que ça dépend. Ça dépend probablement des tranches d'âge et ça dépend aussi du genre de la personne. Parce que je pense que la pression sur les femmes et sur les hommes reste encore un peu différente, la pression sociale.
Ouais.
Et il y a aussi, disons que être célibataire, probablement, ce n'est plus maintenant très stigmatisé, surtout pour les jeunes gens. Ça ne semble plus être un problème. Au moins, je n'ai pas d'études là-dessus, mais ça me semble une observation possible. Mais il y a encore des catégories de personnes qui souffrent énormément de leur célibat. Par exemple, les femmes à un certain âge, après, je dirais, la trentaine, 35 ans, surtout quand il y a un projet, évidemment, de maternité.
D'avoir des bébés,
ou un projet de famille qui est impliqué. Et ce sont aussi les personnes qui ont davantage de difficultés à entrer dans les marchés des rencontres.
Et en même temps, dans le livre « La sexualité humaine », c'est publié en 2009 par un collectif de psychologues et, je ne sais pas si vous connaissez, Cara, et de sexologues et de psychologues, il est dit que les couples heureux augmentent leur espérance de vie de 4 ans et diminuent leur probabilité d'être malade de 35 %. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant et ça peut amener justement de se dire « Ben oui, il est peut-être là, mon bonheur ». En terminant, Cara, le couple en 2015. Quelles sont les priorités? À quoi pensent les couples de maintenant?
Je dirais qu'ils pensent beaucoup au bonheur, un type de bonheur qui est particulier, qui est défini par le couple même, et ils essayent de définir leur parcours et de se libérer aussi de toute une série de pressions et d'idées reçues qui peuvent entraver de quelque manière l'atteinte de ce bonheur.
Donc, de vivre le couple comme il nous semble bon de le faire.
Ouais.
Cara Piazzesi, vous êtes enseignante, professeure au département de sociologie de l'UQAM. Merci beaucoup. Et en terminant, avec vos collègues, vous êtes en train de mettre, je pense, sur place une étude, un groupe de recherche pour étudier tous les aspects des relations amoureuses, pour en savoir davantage comment on peut le faire.
Donc, les groupes de recherche s'appellent le GEST. En fait, c'est les groupes d'études sur la sexualité, les transformations des environnements, des technologies des environnements sociaux. Et il devrait avoir déjà un site web actif. Je vous enverrai les liens.
On le mettra bien sûr sur le site.
Mais il commence justement, il vient d'être créé, donc il va se faire de la publicité prochainement, j'imagine.
Merci Cara, bonne Saint-Valentin.
Merci.